les filles et salut les garçons. Je suis heureuse de vous retrouver dans le 4-9 en transition sur Radio G pour une nouvelle émission. Toujours à l'affût de nouveaux horizons, de nouvelles pratiques qui font vibrer ma corde écolo-sensible, je reçois aujourd'hui deux personnes en quête de sens, en recherche d'eux-mêmes et avec ça, habitants en Anjou. Encore que, plus pour très longtemps. Je vous espère en forme car aujourd'hui, on va aller voir ailleurs si on y est. En effet, dans un monde souvent figé dans le quotidien, nous rencontrons aujourd'hui deux voyageurs en devenir avec une conscience écolo portée vers le voyage et la découverte. N'est-ce pas là la meilleure façon de se découvrir en rencontrant les autres, en voyageant en mode slow, en rencontrant des gens ailleurs qui vivent différemment ? Bon, pour être plus clair aujourd'hui, c'est le top départ d'un voyage d'un an où un couple d'écolos, débrouillards, va larguer les amarres ou plutôt tourner la clé de son camion de pompier, bricoler, pour aller découvrir Europe et Européens durant environ un an. Mélanie et Benjamin vont tout lâcher pour tout relier et ça, ça nous fait tous rêver. Dans cette demi-heure, nous allons décortiquer ce projet d'éco-voyage, sa préparation, sa part d'organisation, mais également sa part de lâcher prise. Bref, on rencontre aujourd'hui les voyageurs de l'Anjou. Bon allez, voilà ce que je vous propose. Durant cette année, quand on se retrouvera, Mélanie et Benjamin nous donneront des nouvelles sur ce voyage qui s'annonce passionnant au travers de l'Europe, avec dans les valises du low-tech, de la débrouillardise et sûrement plein de surprises. Sortez les boussoles, vous êtes sur Radio G. Salut Mélanie et Benjamin.
Bonjour.
Salut.
Bienvenue sur le 4-9 en transition. Je suis hyper contente de vous accueillir pour ce bientôt coup d'envoi d'une course on ne peut plus tranquille et douce. Alors d'abord, j'ai envie de vous dire, racontez-nous un petit peu qui vous êtes tous les deux.
Donc je m'appelle Mélanie, j'ai 27 ans, je suis angevine. Et en fait, moi j'ai eu la chance de déjà partir voyager il y a quelques années, lorsque j'avais 20 ans, à travers l'Europe et l'Asie aussi. J'étais partie toute seule avec mon sac à dos, avec cette envie un peu de me découvrir. Je suivais des études de management et je trouvais que ça manquait un peu de sens. C'était ce sens que je voulais retrouver à travers le voyage. Donc j'ai pas mal bénéficié de réseaux d'entraide, notamment pour trouver un hébergement. Du coup, ça m'a vraiment permis de découvrir la solidarité qu'il peut y avoir entre les personnes et ça m'a donné envie de partager ensuite. Du coup, je suis revenue avec cette envie d'autre chose, mais je savais pas encore vraiment quoi. Et puis du coup, au fur et à mesure, ça a pris du sens et j'avais envie de faire quelque chose de plus concret, de plus réel. Et ça a commencé par l'alimentation, où j'ai eu envie de produire ma propre nourriture et de surtout apprendre à produire ma propre nourriture. Ce qui m'a conduit à un service civique dans des jardins en permaculture, à différents woofings, et puis à une association angevine aussi qui s'appelle Éco-Formation des Pays de la Loire, qui propose des ateliers autour de l'artisanat et de l'écologie. Et du coup, j'ai pu d'autant plus découvrir de nouveaux savoir-faire avec des artisans passionnés, et puis d'aller beaucoup plus loin. Nous, maintenant, on fabrique notre bière avec des copains, on a fabriqué notre couteau en forge, on fait nos cosmétiques, du savon, enfin plein de choses manuelles. On adore et on a toujours envie d'en apprendre plus. C'est aussi un peu l'objectif de ce voyage.
Moi, je me présente, Benjamin, donc j'ai 28 ans. Moi, j'ai un parcours plus classique, je dirais, j'ai pas encore voyagé. Donc j'ai fait des études dans le bois, j'ai fait ensuite de l'agencement, puis du design d'espace, avant de faire de la maquette. Donc on construit notre camion pour partir en voyage. Donc,
on va en reparler de ce camion.
On va en reparler.
À deux, nous deux, on a quand même découvert le voyage à travers la France, en passant nos vacances, on va dire, en faisant de la randonnée, du camping, bivouac. On avait aussi réussi à se faire un périple en stop, en montant en Norvège en stop, en faisant du bivouac et de la randonnée.
En partant de Angers jusqu'en Norvège, voilà, donc toujours pas mal de kilomètres en stop.
Pour ma part, ce que j'aime, c'est apprendre avec les autres et pourquoi pas après retransmettre qu'on a appris.
Elle vous est venue d'où cette idée de partir en Europe, en camion, pendant un an ?
L'idée déjà, c'était, je dirais, l'habitat. On était en colocation pendant un an et demi et c'était savoir où on allait habiter aussi. Par la suite, il y a eu les idées de tiny house, l'idée d'un terrain. Moi, je me suis dit l'idée d'une rénovation aussi, d'une maison. Le van est assez vite sorti finalement. Puis on s'est lancé assez vite à chercher un van sur Le Bon Coin, internet, toutes les occasions qu'on pouvait trouver. En un mois, on avait trouvé notre nouvelle habitation entièrement vide.
À l'origine, on voulait quand même partir en Amérique latine en voyage. On pensait partir avec notre sac à dos, pas en camion. Mais ça, c'était il y a un an. Et du coup, le Covid est passé par là. Donc, on a reporté notre projet voyage. Et puis, en y réfléchissant, partir en Europe, ça avait un peu plus de sens parce que c'était déjà l'objectif pour l'Amérique latine d'aller faire du woofing, de rencontrer des projets et d'apprendre sur place. On s'est dit qu'on allait pouvoir voir des projets qui pourraient peut-être être un peu plus similaires à ce que nous, on pourrait faire ensuite en France. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'est dit finalement, l'Europe, ça va être cool, et pas besoin de partir super loin pour découvrir. On a aussi pensé à la France, mais là, vu qu'on a un peu plus de temps, on se dit c'est aussi l'occasion d'aller voir un peu plus loin.
Bah, faut tout faire, c'est bien. Comment vous avez fait pour trouver un camion vieux de 29 ans, un camion de pompier de surcroît ?
Recherche sur internet. Moi, j'étais en pause déjeuner quand j'ai trouvé cette annonce. Je l'ai cherchais à peu près tous les midis, tous les soirs. Et donc, j'appelle Mélanie et je dis, bon, voilà, il y a un camion de pompier. Il est là depuis... L'annonce est là depuis midi. J'ai appelé le gars. On a un rendez-vous ce soir à 17h et on fonce, quoi. Et à 17h, on était là-bas. Donc, c'était... une demi-heure d'ici. 20 minutes après, on l'avait réservé, quoi. Et sinon, il serait parti le lendemain.
Ouais, c'est clair.
Donc ça part très vite. Et là, en fait, on a trouvé cette occasion-là, un hasard. Et en même temps, on a quand même cherché ce camion, le Graal.
Et puis, on n'avait pas beaucoup de critères, en fait. Les seuls critères, c'était qu'on puisse tenir debout dedans. Globalement,
oui,
c'était le critère.
Bon critère, oui.
Et puis aussi, qu'il ait son contrôle technique. Et après, on trouvait ça fun aussi d'avoir un camion rouge qui sorte un peu de
Et non, mais attendez, je vous pose la question que tout le monde a envie de vous poser. Est-ce que ça marche encore, le Giro et...
Ah ouais, alors là, la grande question.
J'avoue que tout le monde nous la pose.
Je m'en doute.
Plus de gyrophare et encore pire, on a dû les reboucher le toit finalement.
Oh misère. Ah oui, d'accord, bah oui. Ben oui. Tu voulais pas faire une cheminée avec le trou du...
On aurait peut-être pu, mais c'est vrai qu'on a commencé par le reboucher parce qu'il y avait des travaux avant d'en arriver à la cheminée. Donc
Et reboucher ces fameux gyrophares et on n'a pas la sirène non plus. T'es coupé.
Je suis hyper déçue. Vous pouvez partir. Est-ce que vous nous racontez un petit peu le travail sur cet engin quand même, parce que c'est quand même quelque chose. Qu'est-ce que vous avez fait? Quel genre de travaux vous avez fait dessus en fait?
D'abord, on a beaucoup rêvé de l'aménagement intérieur. Donc, on s'est fait des dessins, on s'est imaginé plein de choses.
On a regardé pas mal de vidéos, photos sur Internet aussi, pour voir un peu les esthétiques des camions, comment on pouvait l'aménager.
Beaucoup d'images, des choses liées à la récup aussi. Assez vite, on a fait un plan. Moi, je me débrouille sur SketchUp, un logiciel 3D. Et en fait, on s'est fait plusieurs propositions d'aménagement. Et puis, on s'est dit, bon, voilà, on s'arrête là-dessus. Et puis, on fonce. Et ensuite, est venue quelques longues soirées de rechercher des isolants, de la marchandise, de la visserie, de la quincaillerie, et tout ça.
Donc, vous avez acheté des choses ou vous êtes que en mode récup?
On a acheté pas mal de choses, Mais ouais, la première phase, c'était l'isolation. On a regardé pas mal de vidéos sur YouTube, en fait, pour savoir comment les gens isolaient leurs camions. Et puis, on a fini par trouver une technique, parce qu'on voulait quand même essayer d'utiliser un maximum de matériaux naturels. Et du coup, c'est un mix de liège et ça s'appelle Biofib Trio. Je fais la pub. C'est du lin, chanvre, coton. Et du coup, on a commencé par ça et ça nous a pris super longtemps, en fait.
Ouais, des choses qu'on connaissait pas du tout et découvert de nouveaux matériaux.
Ouais, on a passé de avril à juillet, voire août, sur cette isolation, parce qu'en fait l'isolation, c'est en soi, c'était pas très compliqué, mais le plus compliqué, c'était surtout après, il fallait tout replaquer en bois, et vu qu'un camion, c'est pas une maison, c'est pas droit, t'as fait plein de petites découpes, et ça, c'était un peu long.
Et donc, du coup, racontez-moi un peu cette histoire d'isolation, parce que je sais que c'est quand même assez fun avec le liège et tout ça.
Le liège,
c'est ce que j'étais en train de dire, qu'on avait oublié cette histoire. Et pour le liège, on s'était dit, un peu comme d'habitude, on va essayer de faire des économies. Donc, en fait, il fallait un liège broyé, et on l'a pris en en un broyant un petit peu gros, en se disant qu'on allait réussir à le remixer avec un mixeur. Et là, on s'est dit, ok, on a... Enfin, c'était deux gros sacs, quoi. Donc,
200 litres de Liège.
200 litres, ouais. Donc, on s'est dit, bah, ça va pas le faire. Heureusement, on a pensé qu'on avait une copine qui avait une minoterie, donc un moulin pour faire de la farine pas trop loin d'ici. On a demandé, et puis, bah, du coup, on a pu aller là-bas mixer notre Liège. Donc, c'était cool. Ça a été fait en 2 heures par des machines automatiques. Donc, nickel.
Youpi.
Et on a eu le droit à la visite du moulin, on l'avait jamais faite non plus, donc c'était nickel. Et puis en échange, bah, on a donné des bières et du savon, notre meilleur moyen de troc en ce moment.
Ce qu'on sait faire.
Pour finir sur l'isolation, une fois qu'il est broyé ce liège, c'est quoi l'étape d'après ?
De faire un beau mélange avec une colle à bois, on va dire une colle vinili. C'est de faire un beau mélange avec ça, avec un peu d'eau, et puis de mettre ça dans un pistolet à crépir. Et avec de la pression, bah c'est magique. Les parois s'enduisent de liège.
Ça vient se coller directement.
Voilà, ça fait une paroi capitonnée de liège, en fait, qui atténue le bruit un peu et ça vient faire une zone tampon.
D'accord. Donc après ça, est-ce qu'on est prêt et qu'est-ce qu'on prépare d'autre ? Une fois qu'on a fait l'isolation, j'imagine que vous avez fait le reste. Et vous y êtes encore ?
On y est encore, oui. Et bien après l'isolation, déjà ça commence à être plus cool parce que, en tout cas, ça se voit beaucoup plus. Donc c'était plutôt la phase d'aménagement.
Ouais, alors déjà, il faut replaquer en fait. Dans une maison classique, on va dire que c'est du placo. Pour un camion, on a choisi des panneaux de bois en 5 mm pour que ce soit le plus léger possible. Et donc trouver les endroits de fixation, tout ça, fixer. Puis aussi pour que ce soit joli, ben, ensuite il faut essayer de ne plus voir les endroits où on a mis des vis. Essayer de cacher tous les angles un peu moches, que vient l'étape de la peinture. Et ensuite, on peut effectivement commencer à agencer. Donc, on a récupéré un sommier en déchetterie. J'ai scié donc le sommier et je l'ai ressoudé pour les dimensions du camion. Ensuite, par exemple, on a démonté une vieille caravane qui allait partir, bah, pareil, qui était destinée à déchetterie. On a récupéré le meuble de cuisine et on l'a retapé. Il nous va très bien, il est superbe. L'évier inox est toujours impeccable, donc c'est parfait.
L'inox est super pour ça.
Donc voilà, un peu de récup comme ça et ensuite essayer d'imaginer, puis faire nos meubles sur mesure, hein, découpant à la scie nos plaques de bois, en essayant d'assembler. Et pour l'instant, on est ravis de ce qu'on a fait.
C'est bien.
Heureusement. Et puis voilà, après, c'est de trouver des astuces pour mettre différents objets, pour gagner le plus de place possible. Hier, on a fixé des bocaux par le couvercle pour pouvoir gagner de la place. Donc voilà, c'est des astuces comme ça. On n'a pas fini avec ces astuces-là parce qu'en plus, à mon avis, ça se fera pendant le voyage.
Là, en substance, pour qu'on se fasse une bonne image, il y a quoi dans votre camion ? Qu'est-ce qu'il va y avoir aussi ?
On a un camion avec une paroi qui sépare la partie conducteur et la partie qu'on va aménager, où il y a 2 fenêtres, donc ça permet déjà d'avoir un peu de lumière qui rentre par là, et il y a aussi des fenêtres qui sont sur les portes arrière, et puis nous après sur le toit on a rajouté 2 lanterneaux, et après du coup en partant du fond du camion, on a notre lit qui va être surélevé, qui du coup restera fixe dans le sens de la largeur du camion, donc c'est pour ça qu'il a dû couper un sommier, ressouder le sommier pour qu'il soit aux dimensions pile de notre camion.
C'est bien que vous fassiez pas 2 mètres de haut tous les deux, quoi.
Bah du coup Benji va quand même devoir se plier dans le lit.
On va découvrir un peu ce côté-là.
Sous le lit qui sera un peu en hauteur, et du coup on va faire des rangements. On aura notre partie électricité aussi qui sera en dessous.
On va être autonome en électricité.
Ouais, on va
pas mal.
Il y a un panneau solaire. Voilà, qui est posé sur le toit grâce à un support de panneaux et les vérins du coffre de mon ancienne voiture, rest in peace. du coup on a réussi à accrocher notre panneau solaire et lui donner un angle pour capter un maximum d'énergie solaire, et donc on aura toute notre partie élec sous le lit effectivement, donc les transformateurs et convertisseurs d'énergie.
Ensuite, je fais le choix d'avoir une douche parce qu'on s'est dit que notre camion était suffisamment grand et surtout qu'on partait en hiver. Donc la douche solaire, c'est sympa, mais dehors, dès qu'il fait un peu froid, même si l'eau est tiède, c'est pas agréable. Et du coup, pour la douche, ça va être un peu compliqué quand même parce que notre système, on a trouvé un super truc, c'est une pomme de douche qui se recharge sur du 12 volts. Et du coup, dès qu'on la trempe dans notre bidon d'eau, et elle tire l'eau et ça nous fait une pomme de douche comme à la maison. On s'est fait un petit test pour 30 litres d'eau, elle se vide en 10 minutes. Donc, il va falloir quand même être un peu rapide.
Ah, mais quand même, enfin, fallait le faire.
Mais
ça va être la solution. Après, il va falloir diminuer les temps de douche.
Et le plus compliqué après, c'est qu'on n'a pas de chauffe-eau, donc on va faire le système à l'ancienne, faire chauffer des casseroles sur le gaz et puis réchauffer notre eau comme ça. Et peut-être qu'on achètera une petite douche solaire qu'on mettra sur le toit. Et après, en face de la douche, du coup, on s'est fait une petite banquette où on va s'asseoir. Depuis le lit qui sera sur notre gauche, on va pouvoir tirer une table qui est amovible, donc elle rentre parfaitement sous le lit, ou elle peut être tirée pour le moment où on veut manger, donc elle est en face la douche, enfin entre la douche et la banquette. Et dans notre banquette, on a notre petit frigo qu'on peut ouvrir avec un tiroir aussi, garder quelques trucs au frais. Ça, c'était un petit peu le luxe, on s'est posé la question du frigo, mais on s'est dit des bières au frais l'été, c'était quand même sympa.
Oui, c'est vrai. C'est du luxe dans le sens où, effectivement, on n'a pas conscience de la consommation d'un frigo, mais pour nous, ça va être la moitié de notre énergie créée par le panneau solaire.
Et puis, tout au bout, collé à la paroi de conducteur, et du coup, on aura une cuisine un peu en L, avec un évier, une plaque de gaz, et puis un grand plan de travail. Et partout dans le camion, après, au-dessus, on aura des meubles hauts où on va ranger toutes nos affaires. On a l'impression, en tout cas, qu'on va pouvoir caser pas mal de trucs, et on est assez content de ça. Ça va être agréable.
On fait une petite pause musicale avec Fred Chatterton pour Un Monde Nouveau.
Un grand vent nouveau souffle sur le pays. Très chaudement, dans un bain de foule dévot, à moitié épaillie. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz. C'était à n'y comprendre rien, tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit du serveur central.
Ça tombe sous le sens, j'ai bien envie de l'entendre. Ah
j'allais dire ça tombe sous le sens, mais
voilà.
La chanson est un peu mélancolique, mais nous, le but, c'est de créer notre monde nouveau à nous en termes de trouvailles. Et si on découvre des choses dans le low-tech, ou comment avoir une maison plus autonome, comment être plus autonome aussi dans la vie, c'est de se créer un nouveau monde, en fait. C'est des choses qu'on ne connaît pas du tout. Donc.
Il y avait aussi ce côté, dans le refrain, il parle que savions-nous faire de nos mains. Et du coup, il y a aussi ce côté vraiment fabrication manuelle. Et en plus, je crois que cette chanson a été faite pendant le confinement. C'est vrai que c'était un peu cette ambition qu'on avait pour certains, qu'il y ait des choses qui changent après le confinement, qu'on aille plus vers ce retour au local et à la fabrication. Et c'est aussi un peu cet espoir qu'on a, en tout cas pendant le voyage, de trouver ça. Donc c'est pour ça qu'on aime bien cette chanson.
Donc le voyage, c'est bon, vous connaissez, vous avez déjà fait, vous avez déjà expérimenté un peu. Quelles sont vos motivations écolo pour ce voyage ?
L'objectif déjà de ce voyage, c'est d'aller rencontrer des gens et leur savoir-faire, et de partager vraiment autour de l'artisanat avec les gens. Donc on a envie de se former à différentes thématiques. On a le côté habitat qui nous intéresse, à la fois construction mais à la fois énergétique avec les low-tech par exemple. On a aussi tout ce qui est jardinage, alimentation, qui nous intéresse aussi de continuer d'apprendre. Nous, on a aussi des connaissances là-dessus qu'on souhaite partager. Et puis, on adore jardiner. Donc, ça nous fera plaisir aussi de mettre la main à la pâte et de jardiner au sein d'un nouveau lieu. Après, on avait aussi l'idée d'aller voir des projets de vie collective parce que c'est des questionnements qu'on se pose. On n'a actuellement pas, enfin, on n'a pas de maison qui nous appartient et du coup, on se pose aussi cette question de est-ce que nous, on a envie de vivre collectivement ? Et du coup, aller questionner un peu ça à travers le voyage, aller voir comment les gens qui vivent collectivement fonctionnent, les côtés positifs, les côtés négatifs, puis aussi essayer d'apprendre un peu des expériences de chacun pour faire au mieux par la suite. Vie collective, mais pas forcément habiter ensemble, mais faire un projet professionnel ensemble, notamment avec les tiers-lieux, qui sont des projets qui nous parlent bien en tout cas et qui pourraient nous intéresser de monter par la suite. Donc on veut aussi aller voir ce qui se passe de ce côté-là et s'inspirer pour la suite. Vraiment l'idée c'est ça, c'est aussi de revenir avec plein d'inspiration, plein de positivité et une bonne motivation pour se lancer dans des projets.
Comment on fait pour rencontrer des gens qui sont prêts à vous faire une place pour votre camion, à vous faire une place à table ou à vous faire une place dans le jardin ?
Il y a plusieurs réseaux qui existent. Il y a le réseau du woofing qui prend différents noms, parce qu'il y a Woofing France, il y a Workaway.
Alors je t'arrête, je te pose une question entre temps. Raconte-nous le woofing pour les gens qui ne sauraient pas ce que c'est.
Le woofing, c'est du coup, ça a été créé justement plutôt pour les voyageurs à la base. L'idée, c'est que pendant qu'on voyage, après ça peut être un voyage à proximité, hein, autour de chez soi, dans le même pays ou à quelques kilomètres. Mais l'idée, c'est d'aller donner un coup de main à des personnes qu'on a besoin en échange du gîte et du couvert. C'est donner un peu de son temps dans sa semaine, ce qui peut permettre pour les voyageurs de continuer aussi d'avancer dans le voyage sans avoir trop de frais. Et c'est un échange qui fonctionne bien parce que la personne qui nous reçoit, elle a aussi besoin d'aide dans son activité et du coup, ça lui permet d'avancer mieux. Enfin, d'avancer plus vite. Et puis surtout, c'est des temps aussi conviviaux et qui permettent d'échanger les savoirs. Donc super, c'est super
riche.
Important.
Je reviens à ma première question. On fait comment pour aborder ces gens-là, en fait ?
Alors, pour le woofing, il y a des sites qui existent. En fait, souvent, il faut adhérer. Quelque chose comme 30 euros pour une année. Et en fait, on a accès à toutes les personnes qui reçoivent chez elles. On peut soit taper un pays, une ville ou plutôt un milieu dans lequel on veut aller. Donc si c'est par exemple de la permaculture, eh ben on peut mettre ce mot-clé et puis du coup ça nous permet de trouver des gens et après chacun a un profil, on s'envoie des messages et puis on convient d'une date et voilà.
On fait un nouvel intermède musical avec une reprise de Ayo, Née quelque part.
On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Des oiseaux de basse-cour et des oiseaux de passage. Ils savent où sont leurs nids, qui rentraient de voyage ou qui restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, c'est partir qu'on veut, revenir qu'on part. À l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareil ou pas. Est-ce que les gens naissent égaux en droit? À l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareil ou pas. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus le trottoir de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part. Laissez-moi ce repère où je perds la.
On sent bien dans ce choix l'envie de découvrir d'autres cultures, d'autres manières de vivre. Il y a un côté se découvrir soi au travers de la route. C'est assez important, je pense. C'est pas que découvrir aussi les autres, mais vous découvrir vous-même.
Oui, bien sûr. Bah oui, je pense que ben déjà on va vivre tous les deux dans 6 mètres carrés. Ça va être se découvrir soi-même aussi. Effectivement, ben savoir ce qu'on est capable de faire, c'est un défi un peu aussi. Et puis ensuite, oui, ce sera rencontrer les gens ensuite quoi, à travers cette aventure-là, effectivement.
Ce qui est génial en fait dans le voyage, c'est que le fait d'avoir le temps, ça permet aussi de voir qu'est-ce qui est important pour soi. C'est ça qui va nous permettre par la suite de prendre des décisions, de prendre des décisions avec le cœur et de plus fonctionner aussi dans cette urgence et de réfléchir autrement. Donc grâce à ça qu'on va pouvoir se découvrir et voir vraiment qu'est-ce qu'on a envie de faire, d'être.
Prendre du recul, on a 27 et 28, on n'a pas vécu toute notre vie du tout, mais savoir ce qu'on a déjà vécu et prendre du recul sur ce qu'on pourra vivre ensuite.
Vous allez commencer par où?
Grande question.
Le planning n'est pas encore fait.
La réponse la plus simple, c'est la France, de toute façon. On part d'ici, on va partir par la France, on a un camion qui roule à une moyenne de 80 km/h.
Max.
Donc, on va forcément commencer par la France et je pense qu'on va y... Alors, dans les premiers projets, là, on va y rester un petit peu, je pense, quelques semaines peut-être.
Mais en fait, on se pose pas mal la question parce que du coup, on n'a pas de date de départ définie puisque la date se fera quand on aura terminé l'aménagement du camion. Donc, c'est difficile d'organiser parce qu'on se dit c'est l'hiver, donc le mieux, ça serait de commencer par du woofing. Aller se réchauffer un peu auprès d'un feu de cheminée en intérieur. Mais sauf que, du coup, tant qu'on n'a pas de date, c'est compliqué de contacter les gens et de leur dire on arrivera peut-être à cette date-là. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop. Mais du coup, dans tous les cas, on va descendre vers le sud pour aller chercher un peu le soleil. Mais ouais, on pensait peut-être commencer par la France, faire un woofing, en tout cas sur la fin d'année. On espère partir début décembre.
J'ai envie de te dire, c'est un petit peu comme tout travaux de réhabilitation d'une maison ou de construction d'une maison. Ça prend toujours plus de temps qu'on avait prévu.
Oui, voilà, c'est sûr. Alors le fin septembre, c'était il y a quelques mois. C'était au début, quand on a eu le camion, tout au début. Donc on a revu nos plans, mais oui, on espère partir début décembre. On a mis un chauffage d'ailleurs dans notre camion. Chauffage au gaz, parfait.
Comment on fait pour aller voir ailleurs si j'y suis? Donc vous allez nous donner des nouvelles au fur et à mesure. Comment on va faire ça?
Du coup, l'idée, c'est de créer un petit podcast de 2-3 minutes qui viendra s'imbriquer dans l'émission Le 4-9 en transition. Et du coup, l'idée, c'est que nous, on va pouvoir raconter un peu ce qu'on fait, les personnes qu'on rencontre et puis les savoirs qu'on apprend aussi pendant ce voyage-là sur un temps très très court, mais qui permettra un peu de suivre de manière régulière ce qui se passe. Et nous, ça nous parle bien parce qu'on trouve que c'est hyper intéressant aussi de transmettre ce que nous on vit en voyage à d'autres personnes, peut-être de donner aussi envie aux gens de passer le pas, parce que c'est vrai qu'on est pas mal à avoir envie, mais des fois c'est pas évident de se lancer. En voyant un peu les projets positifs qui fonctionnent, etc., qu'on se dit ok, pourquoi pas moi. Donc ça donne plus facilement envie de se lancer.
Mais même pas que le positif.
Oui, il y aura aussi
le côté
négatif.
Vous aurez votre première panne, on a très 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 envie de savoir comment vous avez géré ça.
C'est clair.
On sera content de vous dire comment on arrive à vivre, à surmonter les épreuves, effectivement, dans ce camion.
En plus, de toute façon, le négatif en voyage, au final, ça se transforme toujours en bonne histoire. Au début, c'est négatif, puis après, une fois que tu as passé cette étape, t'en rigoles, donc c'est plutôt cool au final.
Ouais, ouais.
Je crois savoir que t'es un petit peu fan de l'émission Nuit et culottée. Moi aussi, enfin, je crois qu'on l'est tous un petit peu. Ça devient assez terrible d'ailleurs. Moi, j'ai éduqué mes enfants à Nuit et culottée, donc ils sont à fond dans l'idée de voyage, mais tout nu. C'est peut-être pour ça que j'ai du mal à les habiller. J'en sais rien. Je ne sais pas. Je vais y réfléchir. Est-ce que ça inspire justement pour l'idée de rencontre, aller découvrir des gens et des situations différentes?
Ouais, moi je trouve que c'est hyper inspirant. Avant de partir dans mon premier voyage, je regardais déjà l'émission et en fait ce que je trouve génial et ce que l'émission nous rappelle, c'est que tous les freins, c'est nous qui nous les mettons. Et finalement, quand tu les vois, les deux mecs, ils partent à poil littéralement, et ils ont juste un couteau et une carte d'identité, et ils ont des défis complètement loufoques, et c'est ça qui rend le truc encore plus possible. C'est parce que eux, ils y croient à fond, c'est grâce aux rencontres qu'ils font qu'ils peuvent atteindre cet objectif et puis avancer dans leur voyage. Et donc moi je trouve que quand on regarde cette émission, ça donne la pêche, ça donne envie, et puis on se rend compte que tout est possible finalement, et ça c'est vraiment génial. Bon, on part pas tout nu, mais mais en tout cas on a envie de ces rencontres. Et ce que j'aime aussi dans Nuit et Culotté, c'est que du coup, ils ont aussi montré que le voyage, c'était pas vraiment le fait de partir, c'est vraiment la rencontre et comment toi tu vas percevoir les choses. Du coup, c'est pour ça qu'ils font beaucoup de choses en France, et c'est vrai que tu peux voyager à 30 km autour de chez toi, finalement. Donc, c'est aussi ça qui est génial. Et ils se rendent compte aussi que toutes les personnes qu'ils rencontrent, c'est des gens lambda, quoi, et des gens qui vivent aussi au milieu rural, etc. Et que ces personnes sont formidables.